Luc chapitre 24, les 12 premiers versets pour notre méditation de ce jour. Luc chapitre 24, les 12 premiers versets. La résurrection de Jésus, au nom de Jésus. Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent la pierre roulée loin de l'entrée du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient pas qu'en penser. Lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent, comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie. » Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. « Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des hommes pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il revienne de la mort à la vie le troisième jour. » Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 disciples et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit aux apôtres. Mais les apôtres pensèrent que ce qu'elles racontaient était absurde et ils ne les crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lin. Puis, il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Amen. Voilà la première image que j'ai choisie. Vous voyez les enfants, qu'est-ce qu'il fait l'homme ici? Il est en train de... De quoi? Ce qui... Il faut éteindre. Voilà, il essaie de voir, mais il ne voit pas. Donc, il utilise cet instrument-là. Et si on veut résumer ce qui s'est passé dans le texte, je pourrais résumer ce texte en deux verbes, voir et croire. Deuxième image, petit enfant qui refuse de voir, parce qu'elle a la sensation d'avoir peur de quelque chose. Tellement les choses que les disciples ont vues pendant la semaine sainte, rappelez-vous, la semaine pascale, étaient atroces, violentes. Ils ont vu de leurs propres yeux que Jésus était maltraité, battu, crucifié. L'image est trop violente. Et tellement leurs mémoires se sont figées, bloquées dans le passé à cause d'un traumatisme. La blessure est encore très présente. Donc, voir Jésus capturé, traîné comme un sale brigand, battu à mort, humilié publiquement, crucifié et mourir de façon dure a un impact psychologique et peut même blesser le fond de leur être. J'ai suivi une formation au niveau de l'aumônerie hospitalière et on nous a dit que quelqu'un qui a subi des violences physiques ou qui ont vu une violence atroce peuvent subir une sorte de déconnexion dans leur cerveau. Et cette déconnexion, c'est la forme d'autodéfense du cerveau de l'être humain pour se préserver. Mais d'après les psychologues, ces images, par exemple, qu'ils ont vues, sont encore là en eux et pourraient revenir d'un seul coup comme des flashs si quelque chose les déclenche. Et même si la chose qui se passait était datée d'une trentaine d'années, elles peuvent revenir brutalement comme si c'était hier. Et c'est un peu ce qui se passe ici dans ce texte. il est difficile pour les disciples d'admettre que leur maître soit ressuscité à cause de ce qu'ils ont vu. C'est pas parce qu'ils ne le souhaitaient pas, c'est parce qu'ils sont encore bloqués psychologiquement dans le passé, avec tout ce qui s'était passé. Et même si le Seigneur a donné des indices afin qu'ils puissent croire, leurs yeux étaient aveuglés. Ils ont vu, ces femmes ont vu les anges, mais elles étaient aveuglées par ce qui s'était passé dans le passé. Aveuglées par la douleur, aveuglées par la tristesse. J'ai parlé d'indices. Voilà, on va dire, si on regarde un film policier, il y a des indices. La première indice que le Christ a donné, premièrement, c'est la grosse pierre que vous voyez ici, qui était roulée sur le côté. Cet indice, normalement, devrait déjà susciter une curiosité. Comment se fait-il que cette pierre soit roulée de côté? Alors, dans leur réflexe, c'est que quelqu'un forcément a forcé et a volé le corps. Vous voyez, ils ont refusé de croire parce que tellement la douleur est encore palpable. Deuxième indice, il y avait les deux anges présents pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un acte de vandalisme, justement. Ils ne l'ont pas laissé, voilà, le tombeau vide et ils doivent se débrouiller, non. Dieu savait qu'ils auront du mal, mais c'est comme un jeu de pistes. D'abord, la pierre qui est roulée, ensuite les deux anges. Dieu ne bouscule pas, il les emmène tout doucement vers la foi, parce que l'être humain ne supporte pas le changement brusque. Donc Dieu le mène tout doucement. Et là, il y avait les deux anges. Et ces derniers les ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont fait rappeler toutes les paroles qui se rendent compte que ce qui s'était passé réellement n'est pas un accident. Troisième indice. Vous voyez là, le tissu. Dans l'évangile où on lit aujourd'hui, ce n'est pas annoncé que ce tissu a été plié. Mais dans notre évangile, c'était comme ça. Mais ailleurs, il est dit que ce tissu a été plié comme quelqu'un qui s'est levé le matin. Donc, ils ont fait leur lit et vont pour dire que quelqu'un était là en train de préparer tout cela. Donc, normalement, ça devait déjà donner plus d'éclaircissement, mais ils étaient tellement bloqués dans ce qui s'est passé le vendredi saint, bien sûr. Et malgré tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'il y a là, cela ne les a pas aidés à croire. Et c'est pour cette raison que je dis, il faut tout d'abord croire pour voir ce que les autres ne voient pas. Dans le contexte de la résurrection, il y avait aussi les deux disciples d'Emmaüs. Les deux disciples d'Emmaüs qui partageaient le pain avec le Christ. Et aussi ne le reconnaissaient pas non plus. La question qui se pose, comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas reconnu? Ils ont partagé le chemin ensemble, mais ils ne l'ont pas reconnu. Je me suis posé la question, est-ce que Jésus a-t-il changé de visage pour qu'on ne le reconnaisse plus? Je ne sais pas. Certains exégètes avancent que le Jésus ressuscité serait assez différent du Jésus avant la résurrection. Et ils se basent sur le texte de la transfiguration sur cette colline où Jésus a changé de visage avec Moïse et Élie, rappelez-vous. Tout de même, si on suit l'histoire des deux disciples ici sur le chemin d'Emmaüs, Jésus avait dû d'abord réexpliquer. Il aurait pu dire « Hé les gars, c'est moi !» Mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû réexpliquer les textes de la Bible, les textes des prophètes, ensuite rappeler ce que Jésus avait dit pendant la semaine pascale. Donc il les mène tout doucement vers l'éclaircissement. Et il est dit dans les évangiles que les deux disciples l'ont reconnu. À quel moment? Au moment où Jésus a rompu le pain. Donc, il a refait tous les gestes habituels, et je souligne ce mot, pour qu'il se rappelle, mais je connais cet homme, sa façon de parler, sa façon de rompre le pain, tout ce rituel, ça me fait rappeler le jeudi saint, qui n'était même pas la semaine passée. Et c'est à la fin qu'il est dit, ils l'ont reconnu. Et quand ils l'ont reconnu, Jésus disparaît. Il aurait pu dire, ah, vous me reconnaissez maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on reste dans cette situation de vision. La vision n'avance pas vers la foi. Parfois même la vision nous empêche de croire. Il en est de même avec ce monsieur. C'est qui? Qui pourrait reconnaître? Thomas, voilà. Thomas, pour son cas, c'est encore plus poussé encore. Lui, non, moi, je veux mettre mon doigt, regardez, à l'intérieur. Est-ce bien lui? C'est pas un faux ou un charlatan qui se dit « je suis Jésus ». Non, il faut que je vérifie. Ah oui, mais c'est bien lui. Imaginez un peu ce qui se passait ici. Et c'est après qu'il a fait sa confession de foi, « mon maître, mon Seigneur ». Voyez, ce que nous voyons nous empêche de croire. Ce que nous voyons nous empêche de croire. Or, comme dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, verset 17, « la foi vient de ce qu'on écoute ». Vraiment la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Donc la vraie foi se base sur la confiance de ce que Dieu nous dit. Et souvent ce que nous entendons sont en contradictoire avec ce que nous voyons. Et c'est ça qui nous empêche à croire. À vous de choisir, est-ce que vous allez croire ce que vous voyez ou est-ce que vous allez croire ce que vous entendez? C'est-à-dire la parole. Ce sera toujours le dilemme de notre vie jusqu'à la fin de nos vies. Sur quelle base s'enracine ta foi? Sur ce que tu vois dans ce monde? Mais plus tu regardes le monde, plus tu seras déçu. Plus tu seras pessimiste, plus tu seras fatigué. Mais va plus loin. Ce que Dieu t'a dit, ce que Jésus t'a dit dans sa parole. Et là, tu vas voir au-delà de ce que les gens peuvent voir. Et tout ce que je viens de dire me fait rappeler la parole que Jésus avait adressée à Marie et à Marthe lors du décès de Lazare. Il avait dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Regardez bien, voir la gloire de Dieu, c'est après, mais pas avant. Or, nous avons toujours cette habitude, « Seigneur, si tu me fais ceci, je vais croire en toi. » N'est-ce pas? Quand nous faisons une prière tellement... Il y a quelque chose que nous demandons à Dieu. Ah, je vais faire un vœu pieux. Si tu m'enlèves de cette situation, je vais m'engager pour toi. Si tu réponds à ma prière, je vais croire en toi. Donc, on est toujours dans cette dynamique. Je veux voir d'abord pour croire. Mais je vous assure, plus vous allez voir les miracles, plus vos cœurs vont s'endurcir. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Juste quelques heures après, ils commençaient à se rebeller contre Dieu. Oh, ce serait mieux qu'on retourne en Égypte. Et pourtant, ils ont vu la mer s'ouvrir devant leurs yeux. Ils ont vu la manne, les cailles. Mais non. Plus ils ont vu des miracles, plus leur cœur s'endurcissait. Donc, ne pensez pas que tous vos problèmes vont se résoudre et vous allez dire, là, j'aurai la foi. Je ne serai pas sûr. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, elle est cachée derrière les choses les plus insignifiantes. C'est la foi seule qui ouvre nos yeux. C'est la foi qui ouvre nos pensées. Ce n'est pas parce que c'est très bien argumenté, ni bien expliqué par le pasteur ou le prédicateur, ni parce que c'est trop clair que nous allons croire. Non. C'est le contraire qui se passe. C'est parce que nous croyons malgré tout ce que nous entendions, malgré tout ce que nous voyons. C'est à partir de là que nous commençons à comprendre certaines choses que nous n'avons jamais compris. Je vais vous faire un aveu. J'ai fait 9 ans de théologie, mais chaque jour, je découvre la beauté du texte biblique. Il y a des choses que je n'avais jamais compris avant, 9 ans passés, mais c'est aujourd'hui que je le comprends. C'est ça la beauté de la foi. Ce n'est pas une science qui est acquise d'une seule fois, mais tu découvres. Plus tu crois en ce Dieu qui t'a appelé, plus il va te faire découvrir des choses que tu n'as jamais vécues. C'est ça notre Dieu. Alors il n'y a qu'une seule chose à faire. Si nous ne voyons pas, si nous sommes aveuglés, soyons honnêtes comme cet aveugle Bartimée qui avait dit à Jésus, Jésus lui a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette question est un peu bizarre. Si on était à la place de l'aveugle, on aurait pu dire, « Mais tu es con ou quoi ? Je suis désolé. Tu ne vois pas que je suis aveugle ? Et tu me poses encore cette question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais c'est fait exprès. Qu'est-ce que tu veux réellement ? Et là, l'aveugle lui répondit, « Rabouni, qui signifie « Maître, fais que je voie de nouveau. » Il y avait une autre histoire, rappelez-vous, un malade qui était au bord de la piscine à Bethsaida. « Qu'est-ce que je veux que je fasse pour toi ?» Et lui, il n'a pas répondu comme cet aveugle. Au lieu de dire « Guéris-moi !»« Ah, tu sais, quand l'eau bouge, personne ne me prend dans ses bras pour le mettre dans la piscine. » Au lieu de dire « Guéris-moi !» Il voulait autre chose. Finalement, c'est ça notre problème. On n'ose pas dire à Dieu qu'on n'a pas la foi. On veut se tromper nous-mêmes. Oui, mais moi j'ai la foi. Mais si on scrute vraiment derrière cette pseudo-foi, ce n'est pas de la foi. N'ayez pas honte de dire « Seigneur, je n'ai pas la foi. Je doute. » Vous savez, le doute nous aide à nous découvrir nous-mêmes pour dire qui tu es réellement. Le doute fait partie de la foi. Le doute nous enlève toutes nos imaginations, nos illusions. Et quand tu dis, Seigneur, j'ai envie de voir, c'est ce qu'il veut entendre de toi. Il ne te dit pas, fais l'effort de voir, mais demande-moi pour que je puisse ouvrir tes yeux. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Et dernière image ici, demandons à Jésus de nous donner la foi pour que nous puissions voir la gloire de Dieu comme cet homme, tout content, parce qu'on lui a redonné la vue. Amen.